Pardon là, bonjour, nous vous remercions pour l'entretien que vous nous accordez au sujet de votre troisième enquête sur le domaine nucléaire à travers deux objets, un livre et un documentaire. On va plus s'attacher sur le livre, nous, pour Homo Nuclearus. On peut dire que vous êtes devenue une spécialiste du nucléaire?
On peut dire que j'aime beaucoup ça, oui. Spécialiste, vous savez, c'est compliqué, hein, mais j'ai compris comment ça marchait et je crois que j'adore ça, oui.
Donc globalement, la relance du nucléaire vous inquiète? Et la décision unanime, enfin non, unilatérale, pardon, de Macron de se relancer dans le nucléaire vous ulcère.
Inquiète, ulcère, on est sur la théma émotive. Moi, je dirais que il y a matière à inquiétude, oui, sur la question de la relance, sa façon peut-être non démocratique et ulcérée, lasse, en tout cas, oui, mais en tout cas, il y a de quoi dire, oui.
Donc la relance du nucléaire donc, est faite un peu en dehors de tout cadre réglementaire, on l'a compris. Donc c'est un peu ce manque de débat national qui vous pousse, qui vous motive à produire un objet tel que ce bouquin pour éclairer les citoyens.
Oui, alors il y a des débats nationaux pour les sites des futurs EPR2, voilà, dans lesquels on discute de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la décision a été unilatérale, non démocratique, elle n'a pas été soumise au Parlement.
Donc vous enquêtez spécifiquement un peu sur le domaine économique et financier du nucléaire. Ce qui n'est pas une mince affaire. Vous vous reportez quand même sur beaucoup de rapports de la Cour des comptes, par exemple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que EDF n'a pas été capable de vous donner des chiffres clés en main, des sources fiables.
Alors EDF, dès que moi je les appelle, bon, je suis sur une liste rouge, enfin noire en tout cas, et donc c'est le strict minimum, voilà. Donc le strict minimum est tout de même abordable et c'est beaucoup beaucoup de documentation pour plonger en profondeur dans des chiffres. On a des bilans, des comptes de résultats, voilà. Enfin, il y a quand même une réalité chiffrée qui existe de la part de EDF, Orano, le CEA, enfin voilà.
Chiffré, mais difficile à reconstituer parce que même la Cour des comptes, elle parle même elle-même de rétention d'informations et de données parcellaires. C'est pas une mince affaire. Donc, quand on est journaliste, c'est encore pire, on va dire.
Oui, c'est encore pire, en tout cas en ce qui me concerne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui peuvent livrer des documents, faire passer des informations, et on se met à recouper des choses. Mais c'est vrai que voilà, la Cour des comptes, quand elle a fait ses auditions sur la file, notamment son rapport de janvier 2025 sur la filière EPR, là, effectivement, elle parle de rétention d'informations. Ce sont des informations qui n'existent pas encore. Qui n'ont pas été livrés parce qu'il n'y a pas de bilan financier à fournir d'un EPR. Donc ce sont on va dire, le business plan EPR d'EDF que la Cour des comptes réclame et elle n'en a pas eu la totale intégralité. Les rapports de la Cour des comptes, je voudrais quand même saluer les gens de la Cour des comptes, cette équipe qui travaille sur les déchets, le démantèlement, l'approvisionnement en uranium, ses coûts et la filière EPR. C'est très lisible et ce qu'on y trouve dedans est hallucinant. Donc si c'est la même chose pour la sécurité sociale, la justice, l'éducation, etc., à chaque fois qu'ils passent au crible un secteur et un domaine, ben on peut tous flipper, quoi. Voilà. Parce que tout est dit et je ne comprends pas pourquoi on ne tire pas les conclusions qui s'imposent, on ne suit pas les recommandations à minima.
On va s'arrêter spécifiquement au début sur le dossier EPR2, puisque c'est celui quand même qui est le plus en vue médiatiquement et parce qu'il est le plus impactant peut-être pour l'EDF, et en tout cas, il est plus impactant et dans le même temps, il paraît comme déjà clos médiatiquement, comme si c'était déjà fait en fait. Et vous révélez justement que le dossier EPR2 est plutôt bancal que clos et ficelé et équilibré. Donc en dehors de l'aspect industriel lui-même, sur lequel on pourra revenir, parlons sous. Le PR2, c'est un montage financier hyper complexe en fait pour prétendre en fait le mener à terme.
Alors, au-delà du montage financier, commençons par le début, c'est combien ça coûte, le simple devis déjà. Le simple devis a l'air compliqué à faire. Il y a une trouille évidemment de dérapage donc dans le temps, donc il faut un devis extraordinaire, plus derrière une mise en œuvre industrielle très pointilleuse. Donc le devis, ils ont eu du mal à le faire déjà. On est déjà au-delà des 8, 10, 11 milliards, 12 milliards, 14 milliards la pièce, le réacteur de 1650 mégawatts. Et ensuite, on attend ce devis d'ailleurs, d'ici à la fin de l'année 2026. Et une fois qu'on aura le devis, eh bien, on ira chercher les sous. Et alors là, c'est effectivement une autre paire de manches d'avoir la capacité de trouver 80, 100, 120, peut-être 170 milliards. On ne sait pas.
Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte en fait qu'il n'y a, a rien de...
Alors si, une chose que l'on sait à ce jour, c'est que l'État, EDF, va investir la moitié du coût total d'investissement. Et l'autre moitié, c'est l'État qui met sur la table. Et c'est là qu'on rentre dans le montage financier. Est-ce que l'État va aller emprunter sur les marchés? Est-ce que l'État a fait une avance à taux zéro? Est-ce que l'État demande... est-ce que la Caisse des dépôts se met à contribution en levant via le livret A des Français? Est-ce que... etc. Donc, toute une série de questions découle de là. À ce jour, tout n'est pas fixé. Mais on sait que l'État doit aller chercher la moitié de l'investissement. Alors, la question, c'est est-ce que c'est 40, 50, 60, 80 milliards? On ne sait pas.
Parce qu'en fait, il faut comprendre, on le comprend dans le bouquin, que la projection qui est faite des coûts unitaires, elle est faite sur l'idée que le devis repose sur une centrale qui va naître ex nihilo en une seule journée. Ce qu'on appelle donc le
coût overnight.
Le coût overnight.
On doit faire 6 EPR2. C'est la commande qui est faite à EDF.
Il y a
par défaut. Et les études pour 8 supplémentaires doivent être conduites d'ores et déjà. Alors, ce qu'on a, c'est 6 EPR2. On en met 2 à Gravelines, 2 à Penly, 2 au Bugey. À chaque fois, ils doivent coûter peut-être en overnight, c'est-à-dire du jour au lendemain, si on avait toutes les pièces là et que par une baguette magique, un coup de baguette magique, on la construisait dans la nuit, cette centrale, ce réacteur aurait coûté, on va dire, 11 milliards d'euros. D'accord ? Partons sur 11 milliards d'euros. Parce que c'est à peu près déjà dépassé, mais c'est 11 milliards d'euros. Là, on nous dit, on va mettre 10 ans à peu près pour construire cette chose. Donc, on va emprunter et on va devoir étaler tout ça dans le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de retard. Il faut que la chaîne de commandement industrielle, elle soit absolument parfaite. Et donc, ces 11 milliards peuvent se transformer si jamais il y a des... Il y a des embrouilles et des obstacles, elles peuvent se transformer en 15, 17, voire 23,7 milliards d'euros, comme le premier EPR de Flamanville. C'est entre ces 11 milliards et 24, 25 milliards, ou peut-être 28 milliards, comme il y a Hinkley Point actuellement. C'est cette phase-là qui est pleine de flou et qui mérite quelque chose d'un peu plus ficelé. En ce moment, on demande à tout le monde de serrer la ceinture. On demande politiquement à l'État de faire un budget serré au niveau européen, etc. C'est la même chose pour EDF et pour toute la chaîne du nucléaire, de cette industrie. Si ça dépasse... En fait, quand on a une machine de 1600 MW qui produit et qui a coûté tant à produire, derrière, il va falloir qu'on la rentabilise. On sait que le taux de rentabilité recherché, idéal, c'est entre 5, 6 et 7%. En tout cas, c'est ce que des investisseurs privés nous ont dit, qui investissent dans dans des systèmes énergétiques, qui soient renouvelables, en ce moment, c'est leur passion. Là, ils veulent des taux de rentabilité de 4, 5, 6 %. En dessous, ils n'y vont pas. À ce jour, l'EPR de Flamanville, qui est en phase d'être vraiment en train de produire de l'électricité, il aura coûté à ce jour 24 milliards d'euros. Et on nous dit, aujourd'hui, l'électricité, notre coût de production est de 60 euros le mégawatt-heure. Mais ça, c'est les vieilles centrales qui ont été amorties, qui fonctionnent depuis longtemps. Avec cette EPR de Flamanville à 24 milliards d'euros, on imagine qu'un taux de rentabilité à 5 ou 6%, alors là, il faudrait vendre l'électricité à 176 euros le mégawatt-heure. De 60 à 176, on est au moins sur x4. Donc, on voit bien que l'équation économique d'EDF aujourd'hui ne va pas tenir avec les machines de demain.
Je me demande s'il n'y a pas, par ces différents rapports de la Cour des comptes et de la Commission de régulation d'énergie, etc., qui parle des coûts d'électricité, etc., je me demande s'il n'y a pas une manière de justifier à venir des partenariats publics-privés qui seront... ficeler, à garantir au privé une rentabilité sur le dos de l'État. C'est une question naïve.
Question. Les questions naïves en matière nucléaire sont, je trouve, les meilleures parce que ça permet de redéconstruire aussi plusieurs mythes à chaque fois. Il y a un pays que j'aime pas particulièrement, qui est les États-Unis, et qui, après l'incident de Three Mile Island, s'est rendu compte que le risque était inassurable. Et là-bas, ça rigole pas, les marchés financiers, ils veulent quelque chose d'assurable, de sûr, voilà, de pas trop complexe et qui rapporte. Et c'est à partir de là qu'aux États-Unis, le secteur privé a vraiment boudé la filière nucléaire. Et la preuve, ils ont construit très peu de réacteurs depuis 78. Même pas sur les doigts d'une main, je crois.
Oui.
Deux. Quoi qu'il en soit, ici en France, on a considéré que l'État soutenait cette filière nucléaire. Bah, c'est normal, c'est 80% de la production de notre électricité, ce sont des opérateurs d'importance vitale. Donc oui, l'État a dit on va pourvoir. Mais on va pourvoir, jusqu'à quand on va pouvoir pourvoir avec cet enfoncement? Là, on arrive à des moments clés historiquement dans le parc nucléaire. On va arriver à des moments falaises où la plupart des réacteurs actuellement en service vont arriver en fin de vie. Donc il y aura des choix critiques à mettre sur la table dès aujourd'hui. Le choix de Macron, c'est on relance la machine nucléaire. Alors même avec 14 réacteurs, 6 et 8, il n'est pas du tout question de remplacer la totalité des réacteurs. Mais voilà, on arrive à des choix critiques. Et est-ce qu'on a les moyens de ces choix critiques aujourd'hui? Voilà, ça c'est une vraie question. Pour continuer à garantir aux Français une électricité abordable, pour le moins. On sait que ça va augmenter, mais là, ce que nous promettent les réacteurs type EPR ou EPR2, qui sont plus ou moins les mêmes, hein, bah pas, voilà, plus simples dans l'EPR2, mais de même puissance, censés répondre à une demande d'électricité qui va exploser, bon, bah, voilà, ils sont là. Est-ce qu'on peut les construire vite, bien, de manière sûre et pour pas trop cher? Bah, la réponse est pour le moins, on ne sait pas. Et il y a quelques signaux qui nous disent que c'est plutôt non.
Du coup, je suis quand même étonné, la Cour des comptes, dans un avis de janvier 2025, et vous en parlez dans le bouquin, suggère carrément de suspendre le programme des EPR2. C'est là où...
De suspendre la décision finale d'investissement sur les EPR2. Ça, c'est le rendu de la Cour des comptes, rapport de janvier 2025. Ils n'ont pas eu, visiblement, les documents pour pouvoir correctement décortiquer, chirurgicalement même, la matière économique de l'EPR, sa rentabilité. Son taux de charge, est-ce qu'il va fonctionner, son coût final à la fin. Bon, je rappelle que ça fait plus d'un an déjà qu'on le démarre, quoi. Donc ça commence aussi, comme dirait l'autre, ça suffit la blague, quoi, à un moment donné. Voilà, donc on attend, et même de l'autre côté, la Cour des comptes attend des documents, quel est le business plan, à combien on vend l'électricité à la fin, pour que cet EPR, même noyé dans la masse des réacteurs existants et dans les investissements de grand carénage, etc., qu'il y a quand même, on puisse que ce soit rentable, quoi. Voilà. La réponse est peut-être non. Et donc, oui, effectivement, on est dans un pays où l'État va pourvoir. Cette entreprise, elle est vraiment à part. Elle est détenue 100% par l'État. Et on se demande si elle a vraiment des comptes à rendre dans la mesure où elle remplit sa mission de fournir l'électricité à 70 millions de Français. Mais voilà, quel est le dispositif? Est-ce que l'État, dans sa participation au conseil d'administration, etc., a vraiment son mot à dire? Est-ce qu'on ne met pas non plus devant le fait accompli, avec des erreurs majeures sur les 15 dernières années? EDF, je ne suis pas sûre qu'ils aient une intention. Ils foncent et ils savent que c'est un peu open bar. Alors, pour le dire autrement, l'État français refuse peu de choses à EDF.
Votre bouquin ne tourne pas que autour de l'EPR2. On est sur un chiffrage plus global du nucléaire. Donc, quel est le montant que vous révélez dans le bouquin et sur quelle période ce montant s'étale?
Ah oui, au total, en fait, il y a deux choses. Il y a le nucléaire ancien, enfin existant, lequel est rentré dans une phase de grand carénage, c'est-à-dire qu'on révise un peu la plupart des réacteurs selon leur âge. Il y a ceux qui ont 50 ans bientôt, ceux qui ont 40 ans, etc. Bref, et ce grand carénage va coûter dans les 100 milliards d'euros. On a aussi des provisions, des provisionnements, pardon, pour démanteler les réacteurs qui vont arriver en fin de vie et qu'on va devoir fermer. Là, c'est plusieurs milliards par réacteur et on se retrouve très vite à des dizaines, je ne sais plus, 80, non, 30 ou 40, voilà, là, c'est
oui,
plus.
Si, si. 30 et 40,
c'est 30-40 milliards, milliards d'euros pour le démantèlement. Mais on a entendu récemment d'ailleurs qu'on pouvait. Sont sous-estimés et qu'on allait peut-être prélever sur les provisionnements pour démantèlement pour investir dans les EPR2, par exemple. On peut aussi faire des brassages comme ça, comptables. Et puis, il y a les EPR2, donc on le disait tout à l'heure, peut-être qu'ils sont à 100 milliards d'euros ou 120 milliards d'euros, les 6 premiers réacteurs. Donc, au total, on est dans les 250 milliards d'euros. Évidemment, c'est étalé sur plusieurs décennies. Mais ce sont des chiffres qu'on ne met jamais au bout à bout et qu'il est intéressant de voir. Voilà. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est vraiment le truc typique de la dépendance au sentier. On est engagé dedans et quoi qu'il en coûte, on ira au bout. Ce sont des additions salées pour les générations futures dans un monde quand même assez chaotique qui devient instable. Je ne sais pas si tout le monde le sent. J'imagine que si tout le monde sent que d'un jour à l'autre, beaucoup de choses peuvent basculer désormais. Donc, je ne parierais pas une cacahuète sur le fait qu'on va pouvoir gérer ces installations dans un monde politiquement stable au cours de ce siècle.
Oui, on parle d'un fonctionnement des EPR2 de 60 ans. On parle de CIGEO 150 ans avant
à minima.
De fermer, à minima. Voilà, c'est juste pour redonner l'échelle, effectivement.
Oui, et des démantèlements. Lisez les rapports de la Cour des comptes encore et encore sur notamment le démantèlement des installations nucléaires. Et là, on a des tableaux qui sont extraordinaires. Ça nous pousse à faire une sorte de gymnastique projetée en 2081 pour la fin du démantèlement d'un réacteur de la première génération ou de la deuxième génération. Voilà, c'est assez phénoménal. Et 2080, franchement, qui peut dire aujourd'hui, qui peut être absolument sûr aujourd'hui que ce sera un paysage politique stable et doté de suffisamment d'argent pour payer les ouvriers qualifiés qui auront été formés? Franchement, c'est un vrai pari. Nous, on a voulu se focus sur le nucléaire civil. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière tous ces chiffres, il y a votre électricité, à la fin, il y a le prix du kilowattheure. Et ce kilowattheure, EDF nous dit, on peut vous le sortir à 6 centimes, messieurs, dames. Aujourd'hui, avec un EPR, ce kilowattheure sort à 15 centimes. Donc, c'est déjà x3, quasiment. Voilà. Ça n'a pas été dit aux gens. Il se passe qu'on va décarboner la société et augmenter les usages d'électricité. On va augmenter nos consommations d'électricité par un effet rebond simple à comprendre. Et à la fin, on va payer beaucoup d'électricité qui va augmenter. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose d'être pris en étau comme ça qui est un peu gênant. Et les gens se plaindront dans 15 ans, mais on ne nous avait pas dit, l'électricité hors des prix, je ne peux plus vivre sans électricité du tout, ni pour me déplacer, ni pour me loger, ni pour me nourrir. Donc, que faire voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est un peu de préparer les esprits à une réalité qui n'est absolument pas dite clairement comme cela.
Dans la fin du bouquin, vous envisagez avec cette enveloppe du coût nucléaire de voir ce qu'on peut faire avec...
Oui. On a demandé à Virage Énergie, par exemple, de faire un petit
rapport. On le voit aussi dans le documentaire qui sera en lien. Si on raisonne à l'envers, juste pour faire l'esprit critique et l'avocat du diable, après tout, si on devait investir l'équivalent en mégawattheure pour du photovoltaïque, d'éolien, les barrages, les stockages, etc., ça représenterait combien sur autant d'années pour le nucléaire? Sur les 60 années à venir, l'investissement dans l'éolien, qui suppose aussi de la maintenance, de remplacements, etc.
Du recyclage et tout.
Est-ce que ce ne serait pas aussi au moins autant ruiné qu'avec le nucléaire?
Alors, économiquement, on n'a pas fait le calcul comme ça.
On pourrait vous reprocher de dire...
On peut reprocher énormément de choses. Attention, on est là pour mettre ça au débat. Ce qui est sûr, c'est que les renouvelables, En fait, dans ces coûts chiffrés, on en oublie un coût, une ardoise qui est immatérielle, mais qui est celle de cet héritage, de ce legs qu'on fait aux générations futures. De l'éolien, ça se démonte. Du solaire, ça se démonte. Et ça se recycle en plus. On parlait tout à l'heure un peu de ces installations qui vont durer dans un temps très long, dans un monde chaotique et peut-être instable. Voilà, c'est de ces coûts-là aussi qu'il est important de parler, parce que là, ce sont des choix éthiques dans lesquels on se demande est-ce que le jeu en vaut la chandelle, enfin, ou la LED, parce que on a tous notre confort électrique. Ne peut-on pas investir 100 milliards d'euros pour faire en sorte que nous réduisions nos besoins collectivement, sans que ce soit dans le renoncement et la douleur? Et en résiduel, on mettra du renouvelable, enfin, ce sont les scénarios négawatts, soyons plus efficaces et plus économes, et ensuite, derrière, on verra bien comment on ira répondre aux besoins. Faut-il tout électrifier comme des malades? Faut-il se vivre dans un monde décarboné, c'est-à-dire un monde identique à celui d'aujourd'hui, sauf que tout est décarboné? Je ne suis pas sûre que ça fonctionnera, quoi. Donc, on ne parle toujours pas des vraies questions fondamentales. De quoi cette énergie est le nom?
Et vous en parlez en fin du bouquin, c'est ce qui vous anime aussi sur tout le plan environnemental, c'est la sobriété énergétique via des solutions de stockage. C'est vachement techno-solutionniste aussi.
Le stockage, non, c'est une batterie, c'est pas super techno-solutionniste, c'est pas une méga-techno.
Non, mais c'est des méga-batteries.
C'est des méga-batteries, tout à fait. De toute façon, là, à ce stade, on en est à l'épaisseur du trait, c'est vraiment pas le sujet, mais le sujet, c'est, oui, effectivement, on va arriver sur une nouvelle ère de nouvelles batteries, et l'idée, ce sera de stocker ce qui a été produit par le vent ou le soleil, et de réduire un peu cette intermittence, enfin, voilà, cette variabilité naturelle. Un peu de stockage. Moi, je ne connais rien de mieux que la sobriété. Or, c'est un truc qui manque en politique publique à peu près à tous les étages, ou alors c'est cosmétique, ça ne rentre jamais à l'échelle. Voilà, on a des... et là, on a des marges de manœuvre, des gisements de négawatts qui sont assez extraordinaires. Moi, je trouverais ça passionnant qu'on mette des cerveaux et des cerveaux dans un gros observatoire avec prescription de politique publique de sobriété et qu'on s'amuse à envisager de supprimer nos petits gaspilles, quoi, de kilowattheures. Et je trouve ça plus excitant que d'aller construire des trucs. Non, c'est vrai que le nucléaire, c'est excitant quand même. Quand on y pense, une réaction en chaîne, c'est super excitant. Mais je ne sais pas, à ce moment-là, mettons toutes nos billes sur ITER. Moi, ITER, j'adore l'idée. Ça va y faire hurler certains amis anti-nucléaires, mais ITER, j'adore l'idée. Enfin, imaginez, le truc va manger du déchet radioactif et va pouvoir, via la fusion, nous procurer une énergie propre, infinie, et quasi gratuite.
Je ne rebondis pas. On a fait un dossier sur ITER, je ne rebondis pas.
Non. Non, mais sur le papier, c'est génial. Sur le papier, c'est génial. Mais à la fin, ce Graal-là est encore un Graal.
De cette enquête, il y a ces conclusions quand même. Vous rendez compte que voilà, la filière, quoi qu'il arrive, elle reste optimiste, vous le dites. Elle avait un imaginaire verrouillé. Voilà, ça joue du totem. Vous découvrez l'état dans l'état dont parle Bernard Laponche, quoi.
Oui, depuis les premières enquêtes, on a découvert, oui, effectivement, dès qu'on s'intéresse à la question nucléaire, déjà, on voit qu'elle est hors sol économiquement, ça, on l'a dit, elle est hors sol démocratiquement, c'est-à-dire on ne met jamais la question nucléaire au centre. Voilà. Cela dit, elle est bien polarisante, on sait bien à qui on appartient, selon qu'on est... qu'on vote RN et là ils veulent 35 EPR2, LR, ils en veulent 14 à minima, les macronistes 14 à minima, les socialistes, bon, peut-être pas autant, mais quand même, pas trop de pensée là-dessus, et puis après il reste LFI et ELV qui encore au centre un peu cette idée de bifurcon, mais sans quoi. C'est un monde hors sol et qui, en par ailleurs, n'est pas si hors sol que ça économiquement, parce qu'il y a quand même, c'est la troisième filière industrielle française, 230 000 personnes y travaillent. Toutes les régions de France ont un grand centre, une grande installation nucléaire, donc elles sont toutes concernées. Et voilà, et l'idée c'est de faire tourner la machine, donc de trouver aussi des hommes. Donc elle est un peu hors sol humainement parce qu'à ce jour les compétences ont un peu disparu. Donc ça fait beaucoup de choses hors sol. Voilà, et je me dis que bon, on peut peut-être passer à autre chose, entrer dans une nouvelle ère.
Passer à autre chose, justement, il y a ce cri du cœur, des tripes, même tout à la conclusion. Je vous cite, peut-être sans le ton. Lecteur, n'hésitez plus, désincarcérez-vous autant que possible d'un système électrique sur lequel vous n'avez garde prise. Autonomisez-vous sans plus attendre, montez une coopérative, une association, un groupement collectif, créez votre boucle d'autoconsommation et supprimez dans votre quotidien toute gabégie. Là, on est...
Ouais, c'est un cri du cœur, c'est-à-dire que je trouve ça, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus excitant de monter, par exemple, des projets d'autoconsommation collective, de se réapproprier tout simplement les questions de la production de l'électricité, effectivement, d'installer des choses chez soi pour comprendre que on n'en a pas peut-être à disposition tout le temps, comprendre comment ça fonctionne et comprendre que collectivement, on fait bien énormément de choses dans des collectifs. Alors, il y a toujours des jardins partagés, il y a toujours des vergers partagés, des trucs d'autoconstruction et tout. Ben, se réapproprier les enjeux énergétiques, mettre des toitures en commun, aller voir, toquer à sa collectivité locale, sa mairie, etc., voir si ça les intéresse de rentrer dans l'affaire, monter des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont dans l'économie. Tu vois, c'est pas un truc de babos, quoi. À un moment donné, il y a des modèles économiques, mais il n'y a pas d'histoire de domination et de pouvoir et de centralisation. Et voilà, je trouve ça très excitant dans le monde d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Laure Noala, pour cet entretien. Je rappelle votre documentaire et votre livre aux éditions Reporters Seuil. Le nucléaire va ruiner la France. Merci.
Merci à vous.